c'est Martine. Merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de la Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps » à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio. Bien réveillé, on dit merci Julien. Nous poursuivons donc avec l'air du temps et c'est aujourd'hui la journée mondiale de la plomberie. Voilà un événement qui semble copieusement relayé dans les médias, mais quand on creuse, on ne trouve pas grand-chose. Alors avis à tous ceux qui ont un tuyau à ce sujet. Alors j'espère que vous allez bien et là je peux me permettre de vous donner un tuyau pour aller bien. Restez avec nous sur Radio Plus. Et on se dit, ça va la vie.
Allez, ça va, on a dit qu'on faisait la fête. C'est ça, on oublie tout, on se fait tourner la tête. On s'arrange un peu, on se fait beau. Je me recoiffe, je me fais digne, je suis un vrai gringo. On dirait un champignon sous un sombrero. Quand la vie n'est pas jojo, vaut mieux la danser. Même faire n'importe quoi, mais surtout danser. Moi ça me plaît, c'est comme ça, faut pas me briser les noix. J'ai ma petite idée, c'est pas de la purée de pois. Depuis que je suis sur la terre, pas très grand, déjà tout petit, je planquais déjà mes arrières du croissant. Car il faut se méfier dans ce beau métier-là. La vie ça va, la vie ça va, la vie ça va, oh oh. La vie ça va, oh oh. La vie ça va, la vie ça va, la vie ça va, oh oh. La vie ça va, oh oh. Ah ce serait bien, ce serait beau de pas trop s'en faire. Juste se dire qu'on pourrait parler aux dieux. Leur dire mais venez donc mes pépères sur la terre. Voir le bordel, la misère, tous ces gamins qui ont l'air vieux. Voir la patience, le courage qu'il nous faut pour être heureux. Quand la vie n'est pas jojo, vaut mieux la danser. Arracher sa liberté et puis la danser. Moi ça me plaît, c'est comme ça, faut pas me briser les noix. Oubliez tous les cons qui vous font perdre la foi. Depuis que je traîne sur la terre, on me dit toujours pas ce que je fais là. Eh bien j'ai percé le mystère je crois. Alors je pense à vous et je dors avec toi. La vie ça va, la vie ça va, la vie ça va, oh oh. La vie ça va, oh oh. La vie ça va, la vie ça va, la vie ça va, oh oh. La vie ça va, oh oh. Allez ça va, on a dit qu'on faisait la fête. C'est ça, on oublie tout, on se fait tourner la tête. On s'arrache un peu, on se fait beau. Je me recoiffe et me poudre ma gueule de pierrot. Tout blanc sur le dehors et noir sous le museau. Quand la vie n'est pas jojo, vaut mieux la danse. Même si je danse comme un barjo, c'est pour m'éclater. Moi ça me plaît, c'est comme ça, faut pas me briser les noix. Quand j'ai ma petite idée, c'est pas de la purée de pois. Depuis que je suis sur la terre, on me dit toujours pas ce que je fais là. Et je vais pas percer le mystère ma foi. Alors je bois des coups et me nique le foin. La vie ça va, la vie ça va, la vie ça va, oh.
La vie ça va, la vie ça va, oh oh. La vie ça va,
Claire Vassiliou sur Radio Plus. Alors aujourd'hui dans Saletant sur la planète avec Jean-Louis Ouette, et président de l'Étrême Nature, nous allons en fâcher plus d'un. En effet, tous nous cliquons, tous nous envoyons des mails et donc tous nous polluons. C'est une pollution invisible à laquelle nous participons chaque jour sans en avoir conscience. Explication donc avec Jean-Louis. Et puis pas question de polluer avec Bertrand Trinel, puisqu'avec lui tout se fait dans le jardin de façon naturelle, tout en respectant la biodiversité et le climat. Donc, justement, du climat, nous en parlerons. En effet, ce samedi 16 mars aura lieu à Lens une marche en faveur du climat. Quelques explications et précisions avec Pierre Rose, homme de combat et d'action. Eh bien, donc, comme vous pouvez le constater, nous défendrons le climat aujourd'hui dans l'air du temps.
L'an 2000 suscitait nos fantasmes, petit homme englué dans la farce. Du pétrole gerbé sur les côtes, les plages, les tempêtes, les torpeurs de passage. Que faudra-t-il nous prendre sur la tête? Fantaisie du climat, de la planète. Nuages trop lourds se scratchent à l'horizon et le soleil nous crie de ses laser rayons. On s'en fout, tu sais bien, on sera pas là demain. Nous les brasseurs devant les paresseux du on s'en fout, tu sais bien, on sera pas là demain. Rangez votre science-fiction, vos chimères sont matière à chanson. Bienvenue, bienvenue, bienvenue sur la terre. Milliards de fleurs à nous serrer sous la serre, à brûler nos pétales sous les parasols, à embaumer les airs de nos aérosols. Quand nos enfants chercheront un bout de ciel, staperont un peu d'air pur à coups de diesel. Grand-père racontera la fonte des glaciers, le cri des oiseaux qui aimaient à migrer. On s'en fout, tu sais bien, on sera pas là demain. Nous les brasseurs devant les paresseux du moulin. On s'en fout, tu sais bien, on sera pas là demain. Je vous enverrai des chrysanthèmes, vos chimères ne sont que matière à poème. Wow. Un deuxième millénaire, les pieds dans l'eau. Faudra-t-il apprendre la nage aux marmots, se faire copine des inondations, museler les cyclones, faire de l'œil au typhon. Allons, 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 c'est la fête. Envoyons des jouets au-dessus de nos têtes. Se rasent les forêts, s'avance le désert. Et quand on voit monter le niveau de la mer, on s'en fout, tu sais bien, on sera pas là demain. Nous les brasseurs devant les paresseux du moulin. On s'en fout, tu sais bien, on sera pas là demain. Je vous enverrai des chrysanthèmes, vos chimères ne sont que matière à poème. Entendra-t-il la sonnette d'alarme, sûr de lui avant que la nature le désarme? Car à penser que rien n'arrête le progrès, petit bout d'humain peut se faire dépasser. S'envolera-t-il en ouvrant la fenêtre? Rêvera-t-il d'une paix verte? Ou se vengera-t-il de la dame nature en la noyant dans l'échappement de sa voiture? On s'en fout, tu sais bien, on sera pas là demain. Dormez tranquille, amis terriens, le soleil se lèvera bien. Demain matin.
Demain matin. Christophe Mali sur Radio Plus. Alors notre enquête dans l'air du temps, je vous parle, attention, très sérieux, d'une étude faite par l'université d'Oxford sur 848 personnes et qui conclut que si vous faites des cauchemars, eh bien c'est que vous dormez trop. En effet, selon les chercheurs, plus le temps de sommeil est long, plus la phase de sommeil paradoxal l'est aussi, ce qui augmenterait le risque de rêver des choses désagréables. Et les personnes qui dorment plus de 9 heures par nuit seraient donc plus sujettes aux cauchemars que les autres. Alors l'étude dit aussi que les Français ont par ailleurs de moins en moins de risques de voir leur nuit gâchée par des cauchemars, car d'après l'INSEE, les Français dorment 7h45 par nuit, et ça veut dire que c'est 18 minutes de moins qu'il y a 25 ans. Autre chose, cette étude a également montré que l'alcool et le sport n'avaient pas d'incidence sur la fréquence des cauchemars.
Tout réveil, au goût amer, était un cauchemar. Était un cauchemar, oh non, c'était bien hier. J'ai les yeux si rouges et bombés par la nuit ou par les pleurs. Trahisé au mauvais rêve, j'aurais bien aimé, mais non, c'était bien hier. Où es-tu? Y a ton odeur comme seule trace de ton corps. Où es-tu? Tes mains me manquent et moi, j'y crois encore. C'est les matins comme ça qui me font pleurer. Leur vérité me tue, car la nuit a su me faire oublier. C'est les matins comme ça qui me font pleurer. Dès mon premier regard face à la nuit solitaire que j'ai passée. Pleurer. C'était toi, avant t'étais à moi. Quelques heures ou quelques verres, et je dormirai jusqu'au prochain matin. Où es-tu? Y a ton odeur comme seule trace de ton corps. Où es-tu? Tes mains me manquent et moi j'y crois encore. C'est les matins comme ça qui me font pleurer. Leur vérité me tue, car la nuit a su me faire.
Eh bien, c'était Angèle sur Radio Plus, et cet extrait de son album Brawl. Angèle qui parle de rupture, elle lui enverra peut-être un SMS ou un mail pour lui raconter sa nuit. Mais justement, savez-vous que cliquer, c'est polluer ?
Sale dans sur la planète. Oh, le drôle de temps.
Et oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. La solution ? Opter pour la force des passions et mener le combat nécessaire. Et oui, difficile aujourd'hui de se passer d'Internet, tant son usage s'est répandu dans tous les pans de notre vie quotidienne. Je clique, tu cliques, elle clique, nous cliquons. Non seulement Internet a bouleversé nos modes de communication, mais tout le monde s'y met, que ce soit pour faire une recherche sur Google, envoyer un email, liker une photo, comme on dit, en télécharger une vidéo, partager un article. En plus, depuis quelque temps, les démarches en ligne se démocratisent, et d'ailleurs elles sont largement plébiscité, pardon, les avantages, eh bien moins de papier, moins de déplacement, moins de frais, du temps gagné, de la rapidité, etc., etc. Mais ce petit geste du clic n'est pas anodin pour notre environnement. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Martine.
Alors, si ces comportements sont virtuels, leur impact environnemental est bien réel. C'est une pollution invisible à laquelle on participe tous les jours sans en avoir conscience. Alors, non seulement ce petit clic pollue, mais Jean-Louis, lorsqu'on prend connaissance des chiffres, on reste sidéré. Par exemple, il faut savoir qu'Internet pollue autant que les avions. 4000 vols aller-retour entre Paris et New York, c'est l'équivalent des emails envoyés chaque heure dans le monde. Chaque heure, je dis bien.
Eh oui, faut savoir que l'énergie consommée pour l'envoi d'un email est pas négligeable. Faut savoir qu'avec une pièce jointe, c'est l'équivalent d'une ampoule basse consommation allumée pendant une heure, soit 24 watt-heure selon l'agence l'ADEME. Et puis sans pièces jointes, c'est 5 fois moins. Donc faut savoir qu'en 2016, c'est 2672 milliards d'emails, hors les spams, qui ont été envoyés dans le monde. Alors sachant que la production électrique de 15 centrales nucléaires pendant une heure, ça équivaut à l'envoi seulement de 10 milliards de mails, donc vous imaginez un peu la consommation énergétique, la facture énergétique, elle donne des tournis. Les chiffres sont tellement gros qu'il devient impossible de les représenter concrètement. Et là, on ne parle que des emails, mais il faut penser aussi aux vidéos qui sont mises en ligne, à la consultation constante des sites internet, des réseaux sociaux, des téléchargements, les moteurs de recherche, etc. Faut savoir que le secteur informatique, ça représente aujourd'hui 7% de la consommation mondiale d'électricité. Donc, et puis en plus, il faut savoir que le réseau Internet s'est constitué aussi de millions de kilomètres de câbles de cuivre, de fibres optiques qui s'étendent sous le goudron des rues, traversent les océans, et donc tels les indispensables fils d'une toile d'araignée gigantesque. Et puis, toutes les informations qui sont contenues sur le net ont besoin de bâtiments bien concrets pour les stocker, ce qu'on appelle les data centers. Donc, c'est aussi l'autre moitié de la pollution qui est produite par Internet. Il faut savoir que dans les data centers, ça chauffe. Imaginez que vous prenez déjà votre ordinateur portable. Au bout d'un certain temps, vous mettez votre main en dessous, vous voyez bien que l'ordinateur chauffe. Eh bien, ces data centers sont équipés de ventilateurs pour refroidir les systèmes. Et c'est une consommation d'énergie considérable.
Mais alors, c'est nous qui payons, Jean-Louis ?
Ah ben oui, forcément, c'est nous qui payons. On a l'impression que tout ça c'est gratuit, mais on paye quand même aux serveurs, aux hébergeurs, on paye notre cotisation.
Alors, c'est vrai que lorsque j'envoie un mail ou un courriel, je préfère le terme courriel, à mon voisin, il parcourt 15 000 km avant de lui arriver.
Oui, tout à fait, puisque quand vous envoyez un mail avec une pièce jointe, il s'en va vers le data center de votre fournisseur d'accès, qui va réceptionner, traiter, stocker votre message et le retransmettre au réseau. Et il va transiter par plusieurs points éloignés du globe pour arriver chez le data center du fournisseur d'accès de votre correspondant, qui lui va réceptionner, traiter, stocker votre message, le retransmettre au réseau, et après votre correspondant reçoit le message. Alors évidemment, ça paraît aller très vite, mais tout ça, ça parcourt des dizaines de milliers de kilomètres à travers le monde.
Mais alors pourquoi ces comportements virtuels sont-ils aussi polluants ?
C'est polluant parce que ça nécessite ces data centers. Il faut que les informations qu'on envoie, évidemment, c'est des informations codées. Il faut que ce soit réceptionné, traité, c'est stocké, c'est retransmis, etc. Quand on prend, par exemple, encore pire avec une requête web, avec les moteurs de recherche, eh bien, vous faites appel à un moteur de recherche. Ça part au data center du moteur de recherche. Je ne vais pas faire de publicité. Qui vous transmet sa page d'accueil, il vous désigne votre requête par un mot-clé, ça repart au data center du moteur de recherche, qui vous renvoie les résultats trouvés, vous cliquez sur celui qui vous intéresse, Et puis, ça part au data center de l'hébergeur du site que vous avez sélectionné, et pourra finalement revenir à votre ordinateur pour prendre connaissance de la page. Alors tout ça, on s'en aperçoit pas parce que ça se fait en quelques secondes, mais derrière tout ça, il y a des centres informatiques qui travaillent et qui chauffent.
D'accord. Alors, mais quand même, à côté de cela, Jean-Louis, les démarches sur le web présentent quand même quelques avantages en faveur de l'environnement.
Ça présente quelques avantages, oui. Moins de déplacements, c'est sûr que ça évite des déplacements. Mais encore que quand on voit par exemple le commerce en ligne, si on commande, un stylo sur Internet, on voit un petit peu les déplacements qui sont engagés pour le transport et tout. Donc, à condition de grouper les commandes, oui, ça peut être intéressant. Après, il y a une dématérialisation des documents, c'est le mot à la mode, moins de papier. Donc c'est vrai que là aussi, ça fait gagner du papier, mais il faut savoir aussi que ça supprime des emplois. Il y en a qui se créent au niveau de l'informatique, mais il y a des emplois qui disparaissent l'équilibre, où il y a un certain équilibre, faut reconnaître. Mais donc là aussi, je veux dire que les émissions de gaz à effet de serre qui sont générées par le numérique, il y en a le quart qui est dû au data center, au gros centre. Informatique. Il y en a 28% qui sont dus aux infrastructures du réseau, et puis il y en a 47%, la majorité c'est dû aux équipements des consommateurs, c'est les ordinateurs, les smartphones, les tablettes, tous les objets connectés, les GPS, etc.
Personne ne peut plus se passer d'Internet, alors y a-t-il justement des solutions pour moins polluer ?
Il faudrait que les fournisseurs d'accès utilisent de l'énergie renouvelable. Alors ils s'y sont engagés, mais encore de manière assez faible. Je pense aux leaders des réseaux sociaux, je pense à tous les data centers, ils sont engagés à utiliser l'énergie renouvelable. Mais on a encore beaucoup, notamment aux États-Unis, beaucoup de centrales au charbon qui tournent et qui polluent allègrement. Et puis, il faut aussi poursuivre les recherches pour les technologies plus respectueuses de la planète. Alors, dans la conception des outils, c'est-à-dire les ordinateurs, les smartphones, on a malheureusement recours à beaucoup de métaux rares, à beaucoup d'énergie. Et puis, il faut savoir que le cycle de vie d'un ordinateur est quand même quelque chose qui est très, très polluant. La fabrique d'un ordinateur de 2 kilos, il faut savoir que c'est 800 kilos de matière première qui sont mobilisées, c'est 124 kilos de CO2 générés sur les 169 émis sur l'ensemble du cycle de vie. Alors ça concerne les matières premières au départ, la fabrication, les transports, la distribution, l'utilisation, et puis il ne faut pas oublier la fin de vie, c'est-à-dire le recyclage et la valorisation. Donc il y a beaucoup à améliorer à ce niveau-là.
Mais justement, pour nous, petits citoyens, pouvons-nous adopter quelques bons gestes pour, on va dire, limiter un petit peu les dégâts, Jean-Louis ?
Ah oui, alors là, il y a un chantier, je dirais, énorme, avec un grand E. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire que, malheureusement, moi le premier, on néglige. D'abord, il faut s'équiper assez léger, il faut acheter du matériel adapté à ses besoins. Est-ce qu'on a besoin de tel ou tel ordinateur puissant, ou bien d'une tablette qui est plus que des économes en énergie ? C'est aussi au niveau de l'impression, est-ce qu'on a besoin d'imprimer tel document ? Après, choisir des appareils qui sont porteurs de logos environnementaux, ça existe. Pour limiter la consommation d'énergie, ne pas laisser des appareils ou les veilles allumées en permanence. Fermer l'interrupteur, je sais bien qu'on le fait pas, l'interrupteur d'alimentation de la box et puis aussi du récepteur TV tant qu'on y est. Faut savoir qu'une box, ça consomme autant qu'un réfrigérateur. puis attention à ce qu'on fait, attention aux vidéos en ligne, attention aux messages avec des vidéos qui sont inutiles. Est-ce que c'est la peine d'aller envoyer une vidéo de son petit chat, sachant que cette vidéo va consommer énormément d'énergie? Et puis dans les recherches web, bah aller au plus court, hein, bien cibler ses demandes. Tout ça, c'est important pour parce que c'est vraiment très énergivore.
Alors, bien,
bon. Voilà. Alors, je donne des leçons, c'est vrai que j'ai l'impression de donner des leçons et que c'est vrai qu'on n'applique pas, mais ça permet quand même de réfléchir un petit peu à tout ça.
Et je crois qu'il faut
de s'apercevoir que tout ça, c'est pas gratuit.
Il faut vider aussi souvent sa poubelle, hein.
Ben, bien sûr.
Tous des petits gestes qui sont, oui, anodins finalement, hein.
Ben,
eh bien, pensons-y, car finalement, ce sont des gestes simples et pas très contraignant, on va dire, et n'oublions pas que chacun peut contribuer à sauver notre climat. Et justement, à ce propos, nous entendrons Pierre Rose en fin d'émission, qui fera partie des marcheurs ce samedi à Lens, marche pour le climat. Merci Jean-Louis, je vous souhaite une très bonne semaine, à savoir que nous nous retrouverons dans 15 jours.
Tout à fait, bonne semaine.
Bonne semaine
à vous.
Dans 15
jours.
À dans 15 jours, merci Jean-Louis.
Au revoir.
J'ai plein de likes, 400 000 amis, des requests, des followers, tout un tas de contacts, déjà tweet quand je suis, oh c'est la pluie, autant de vues sur le bonheur, mais oui, dans la vraie vie. Dans cette histoire, c'est qu'on poste nos vies, nos échos, nos selfies. On déballe tout sur la toile, se met de tout et de rien. Ça j'aime pas, ça j'aime bien. L'histoire de nos vies ne tient qu'à ce clavier dans nos mains. Et oui. Dis-moi quelle est la pluie.
Zazie sur Radio Plus, ma story, cet extrait de son dernier album Zazie Essentiel. L'essentiel maintenant, l'essentiel du jardinage bio, c'est tout de suite avec Bertrand.
Il y avait un jardin qu'on appelait la terre.
Bonjour Bertrand.
Bonjour Martine et bonjour aux auditeurs.
Alors Bertrand, j'ai trouvé un dicton qui correspond parfaitement à la semaine que nous venons de passer. Au mois de mars, pluie et vent fou, sur nos gardes tenons-nous. On le doit aux Bretons ce dicton, mais il est vrai qu'ils connaissent la pluie et le vent autant que nous. Et en Ardèche, on ne voit pas les choses tout à fait de la même façon. Ils disent pluie de mars, pisse de renard. Alors là, j'ai pas d'explication. Hein.
Ah bah... Peut-être que la pisse de renard, ça peut amener quand même des maladies. Hein. Alors le dicton, ça va peut-être dire que la pluie de mars va peut-être amener des maladies aux plantes.
Ah bon, d'accord,
ah
bon.
Bah... Je n'ai pas d'autre explication.
Alors bon, lorsqu'il ne pleut pas, Bertrand, c'est le bon moment, je crois, pour aller tailler les arbustes à feuillage persistant et ceux qui ne fleurissent pas au printemps. C'est bien ça, j'ai bien retenu mes leçons.
Oui, tout à fait. Donc c'est le bon moment pour tailler les arbustes à feuillage persistant. On va en profiter pour supprimer toutes les branches mortes, les branches malades, etc. Et puis en même temps, les branches un peu abîmées par le gel. Donc si vous avez à choisir l'oranger du Mexique, hein. Souvent, les feuilles à l'extrémité des branches sont un peu brûlées par le gel, donc une petite taille, et puis il va tout repartir correctement. Alors, en début de printemps, on peut aussi tailler des arbustes à floraison estivale. Par contre, je rappelle quand même que tous les arbustes qui vont fleurir ce printemps doivent être taillés juste après la floraison. Comme ça, ça va faire des nouvelles branches pour refleurir l'année prochaine. Si on les taillait maintenant, on n'aurait pas de floraison au printemps. Voilà.
Alors Bertrand, justement, parlez-nous du camélia. C'est un arbuste très joli, assez résistant puisqu'il ne craint pas le gel, paraît-il. Et je sais qu'il y en a qui fleurissent en de décembre à mars et d'autres de mars à mai. Alors ma question, c'est peut-on les mettre côte à côte, ce qui finalement nous ferait une floraison de décembre à mai? Et la floraison, Dieu sait si elle est belle.
C'est une très belle floraison, mais c'est jamais une bonne idée de planter des arbres ou des arbustes de la même espèce côte à côte. Parce que leurs racines se soudent entre elles, et c'est vrai qu'ils peuvent bien sûr s'entraider, mais si jamais il y en a un qui tombe malade, ça va transmettre la maladie à tous les autres. Donc évitez de planter tous les mêmes arbustes côte à côte. Et puis après, chez nous, les camélias peuvent souffrir quand même d'un hiver rigoureux, il faut le savoir. C'est vrai que c'est rustique, mais pas au-delà d'une certaine température. Donc, mais il est vrai aussi qu'en Bretagne, on voit effectivement des superbes baies de camélias, tout en fleurs, c'est extraordinaire. Et moi, pour la petite anecdote, j'avais un collègue de travail qui revenait de Bretagne au printemps et qui me disait « c'est incroyable, les rosiers sont déjà en fleurs là-bas ». Il n'avait pas vu que c'était des camélias. Bon, donc il y a quand même plusieurs espèces de camélias. Il y en a deux qui sont plus connus que d'autres. Il y a le camélia sassanca qui fleurit de septembre à décembre. Donc là, on va le planter dans une terre légèrement acide, bien humifère. On peut le planter aussi en plein soleil, il y a trop de problèmes. Mais surtout pas une exposition bien sûr plein sud, où il fait trop chaud. Et puis il y a le camélia japonica que tout le monde connaît, beaucoup plus connu, et qui eux vont fleurir de janvier à avril. Et ceux-ci auront besoin d'un sol beaucoup plus acide, de la véritable terre de bruyère, qui va leur convenir parfaitement. Mais eux n'apprécient pas le plein soleil, on va pas les mettre en plein sud non plus, ni en plein soleil. Il faudra les mettre un peu à mi-ombre. Voilà, et puis les arroser régulièrement.
Alors Bertrand, donc dans un pot c'est possible, vous m'avez dit?
Oui, dans un grand pot c'est toujours possible. Alors, le pot doit être drainant. Alors je dirais aussi que dans un pot, pour éviter les problèmes de gel, le bord du pot, le bord vertical du pot, vous y mettez un plastique à bulles. Vous le tapissez d'un plastique à bulles, comme ça, ça va déjà permettre... De lutter contre le froid, mais aussi contre le chaud, contre les trop fortes chaleurs. C'est important. Et en bas, vous mettez soit de la poudre de... Enfin, la poudre de vaselle. De la pouzzolane, pierres de pouzzolane en bas. Vous mettez un géotexé au-dessus et vous mettez votre terreau, votre terre bruyère au-dessus.
Et alors, justement, dans un pot, lequel est le mieux? Celui qui fleurit jusqu'en avril ou alors l'autre?
Les deux sont beaux, les deux
d'accord.
Peuvent aller en pot, il n'y a aucun problème.
D'accord.
Alors, mais dans un grand pot, voilà.
Un grand pot. Alors, bon, parlons légumes. Sur les étals français, on trouve du chou-fleur toute l'année, mais j'ai lu que le chou-fleur est excellent à consommer en mars. Est-ce que c'est vrai?
Oui, alors chez nous, dans le Nord, on va semer les chou-fleurs en février, bien au chaud, pour les repiquer par la suite, en avril. Et pour une récolte automnale, pardon, on va les semer plutôt en juin-juillet pour une récolte hivernale, automnale hivernale, et on protège alors les pieds dès novembre. Par contre, en Bretagne, le climat est quand même beaucoup plus doux, c'est pour ça qu'il y a des camélias là, beaucoup de camélias là-bas. On peut récolter des choux-fleurs d'octobre en avril, et c'est vrai qu'en mars, il paraît qu'ils sont excellents. Alors, si vous en plantez dans votre jardin, dès que la petite pomme va apparaître à vos choux-fleurs, il faut casser une feuille sur le dessus, la rabattre sur le dessus, pour la protéger du soleil. La pomme sera protégée du soleil, vous arrosez, et puis à partir de là, vous arrosez régulièrement le pied. Mmh. C'est important si vous voulez obtenir une belle pomme de chou-fleur.
Une belle pomme blanche. C'est un petit peu comme font les Chinoises ou les Japonaises. Elles ne veulent pas. Elles ne veulent pas bronzer.
Elles
prennent
toujours... Elles ne veulent pas bronzer, mais l'important, c'est aussi l'arrosage à partir du moment où la pomme apparaît. Voilà.
Alors Bertrand, nous parlons souvent des insectes et autres bestioles. Alors pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent mettre le nez dans les déjections, et oui, avec Marc Giraud, l'auteur de l'ouvrage « Safari dans la bouse » paru aux éditions La Martinière. Alors l'auteur dresse un portrait flatteur de tous les insectes et autres faisant leur miel des excréments. Ces ailés nettoyeurs de la terre, outre la bouse de vache, l'ouvrage se penche aussi sur les crottes de baleines, mais aussi sur les étrons humains. Alors, il faut dire, Bertrand, que les insectes en particulier ont un rôle important à jouer dans le recyclage de cette matière organique fertilisante, n'est-ce pas?
Oui, et puis heureusement parce que toute cette matière organique est recyclée. Donc, certains insectes se sont spécialisés dans le recyclage de ces matières organiques, les feuilles mortes, les animaux morts, mais également les excréments. Donc, ce sont des insectes coprophages, Alors principalement des coléoptères, des diptères, les mouches, les cafards, tout ça. Hein. Mais il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que les insectes. Il y a les lombriques aussi qui jouent un rôle extrêmement important dans le recyclage de ces matières organiques, sans oublier non plus les bactéries et les champignons. Donc c'est pour ça, je le dis souvent, on doit avoir un sol vraiment bien vivant. Tous ces micro- et macro-organismes sont nos auxiliaires dans le jardin. Ils vont dégrader rapidement tous les excréments et la matière organique. Et ils nous évitent ainsi bien des problèmes d'hygiène, hein, parce que si tout restait comme ça, je pense qu'on aurait beaucoup de problèmes d'hygiène. Et de plus, ils vont rendre cette matière organique assimilable par les plantes. Donc c'est que du bonheur. Mmh. Alors vous parliez dans la question de certains insectes qui font du miel à partir d'excréments. Et bien justement, les abeilles font un excellent miel de sapin. En fait, elles vont récolter non le nectar sur les sapins, parce qu'il n'y a pas de fleurs, mais les excréments des pucerons. Les pucerons se délectent de la sève du sapin, et les excréments sont repris par les abeilles et par les fourmis également. Et puis, ce sont des excréments sucrés qui font un bon miel de sapin.
D'accord, bon.
Voilà.
Quand on le met dans
du miel de sapin,
quand on le met dans le tilleul, on y pensera, Bertrand. Hein, bon, le soir.
Excellent.
Bon, d'accord. Alors, sinon, Bertrand, avez-vous une petite astuce à nous dévoiler cette semaine?
Ben, on va parler un peu de la pollinisation des pommiers, parce que les pommiers vont bientôt fleurir, et pour qu'ils soient bien pollinisés, alors plus les pommiers sont pollinisés, et plus la pomme sera grosse, plus il y aura pépin, et plus elle sera bonne. Donc, si vous voulez avoir une bonne pollinisation, si vous avez plusieurs pommiers et vous ne savez pas les variétés qui vont polliniser les unes des autres, ben vous mettez un pommier décoratif. Alors pour ça, il y en a deux. Il y a le Malus Everest qui va polliniser quasiment tous les pommiers, surtout ceux qui fleurissent tôt au printemps. Dans le Malus Everest, c'est un pommier d'ornement qui fait une profusion de fleurs blanches magnifiques au printemps et qui ensuite, à l'automne, va se couvrir de petites pommes rouges très jolies, très décorative, donc c'est très intéressant, et puis les oiseaux peuvent se nourrir l'hiver de ces pommes. Mmh. Alors, ensuite, il y a une autre variété un peu plus tardive, c'est le pommier d'ornement Golden Hornet, qui lui aura également une profusion de fleurs, et puis qui aura aussi des petites pommes jaunes qui viendront à l'automne, et ces deux pommiers vont vous polliniser tous les pommiers que vous pouvez avoir dans votre jardin, tous les pommiers à fruits que vous aurez dans votre jardin. Donc c'est très intéressant de les mettre, c'est décoratif, et en plus, c'est une grande utilité.
D'accord. Alors Bertrand, votre association des paysages des jardins des hommes participera à la journée de la fraternité le samedi 23 mars à partir de 14h30, je crois. De
oui,
quelle façon?
Alors effectivement, à l'occasion de la semaine de la fraternité organisée par la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais, dont on fait partie, on accueille toutes les personnes qui souhaitent venir au jardin de l'Ermite, hein, à Weskerk, dans notre jardin associatif, afin de les sensibiliser à la disparition des oiseaux et comment aider les oiseaux dans la nature. Donc à cette occasion, on va aussi fabriquer des nichoirs qu'on mettra dans le jardin également. Voilà, on va surtout parler d'oiseaux ce jour-là.
D'accord. Eh bien, Bertrand Trinel, merci. Il fait meilleur, hein. Vous nous avez ramené le soleil. Comme la semaine dernière, d'ailleurs, parce que la semaine dernière, après notre interview, bah, le soleil est arrivé.
Ah oui, tout à fait, c'est vrai. mais on a besoin de la pluie.
Hein. En tout cas, merci à vous et très très bonne semaine, Bertrand. Et à la semaine prochaine.
Très bonne semaine également et à la semaine prochaine.
Merci, Bertrand.
Au revoir.
Sans fin qui s'ouvre chaque matin.
Sur Radio Plus. Alors, focus à présent avec sur cette marche pour le climat qui aura lieu ce samedi 16 mars. Des dizaines de marches et rassemblements sont organisés par des collectifs pour défendre le climat. Alors, l'appel des scientifiques se fait de plus en plus pressant. Les conséquences du réchauffement climatique, déjà bien visibles, seront de plus en plus graves si les rejets de gaz à effet de serre se poursuivent. Aujourd'hui, ces émissions ne diminuent pas, mais repartent même à la hausse. Pierre Rose, bonjour.
Bonjour Martine, bonjour les auditeurs.
Alors, vous êtes avec nous aujourd'hui en tant que membre du collectif pour le climat, et bien sûr, vous ferez partie des citoyens qui se mobiliseront ce samedi 16 mars pour cette marche. Dans de nombreuses villes de France, un rassemblement est prévu, à Lens par exemple.
Oui, un collectif climat s'est constitué sur le secteur de Lens-Liévin. Beaucoup de motivation de la part de personnes qui étaient déjà impliquées dans ce domaine dans d'autres endroits. Rassemblement a lieu à Lens le 16 mars à 10h au rond-point au Pollard et se dirigera vers la mairie puis vers la gare. Des pancartes expliqueront ce qui nous motive. Il ne faut pas oublier qu'une marche aussi pour le climat aura lieu dans beaucoup d'endroits et notamment à Arras à 14h30 et à Lille à 14h30 également. Bien entendu, il ne faut pas oublier les lycéens. Ne seront pas en reste puisqu'elles auront manifesté, ils et elles auront manifesté la veille le 15 mars. C'est significatif que les jeunes français, belges et d'autres pays se prennent en main et montrent leurs inquiétudes.
Alors Pierre, dans notre rubrique « Saletant sur la planète », beaucoup de choses ont déjà été dites sur le changement climatique provoqué par toutes les pollutions, les hydrocarbures, les nanoparticules, le nucléaire, le gaz de couche d'ailleurs, pour n'en citer que quelques-uns. Alors beaucoup de sujets ont été traités, nous avons pointé du doigt beaucoup d'erreurs faites engendrant la pollution. Tout à l'heure encore, nous parlions de la pollution numérique avec Jean-Louis. Alors, comme on le sait, à cause du dérèglement climatique, les conséquences seront de plus en plus graves. Inondations à cause de précipitations abondantes, hausse du niveau de la mer et des océans, tempêtes, sécheresses, effets de serre, disparition de la biodiversité, transhumance. Alors là aussi, la liste est longue. Mais le facteur commun à tout cela, Pierre, c'est l'activité humaine. Alors, lorsque vous dites, et tel est votre slogan, agissons pour la planète, ça veut dire quoi, agissons? À qui est destiné ce verbe à l'impératif, Pierre?
Oui, bon, agir à cause des positions que vous avez indiquées, Martine et Louis et Jean-Louis, ça c'est clair, mais il faut pas en oublier certaines qui sont aussi importantes. L'avion, le grand cargo, pollution maritime, déforestation, pollution des sols, de l'air et de l'eau. Projet gigantesque dans l'agro-industrie et le tourisme, par exemple une serre tropicale dans la Somme, une ferme de 1000 vaches, des porcheries dans le Douaisis, dans le Domarois, l'artificialisation des sols, ou alors ce projet fou d'Europa City à l'initiative d'Auchan dans la région parisienne. Alors agir pourquoi? Pour éviter les conséquences dramatiques de l'activité humaine que vous avez indiquées. L'une d'entre elles sera le déplacement de plus de 200 millions, je dis bien, d'humains de par le monde. Il faudra la gérer humainement. Alors qui doit agir? Bien sûr, nous, les individus. Mais pas seulement, pas uniquement. L'État doit aussi se remettre en question. C'est ce qu'il ne fait pas vraiment en ce moment. Mais on ne peut pas non plus mettre sur le même plan la responsabilité individuelle et celle des dirigeants libéraux, des multinationales, du libre-échange, des banques investissant dans les énergies polluantes. Ce système économique est responsable de beaucoup de choses, y compris de la pollution des esprits. Le raisonnement par l'argent ne sera pas le bon moyen pour que l'on s'en sorte.
Alors, est-ce que vous disiez que les étudiants prennent aussi leur sort en main, mais est-ce que vous croyez, Pierre, qu'il y a réellement maintenant une prise de conscience? Et que veulent tous ces manifestants? Parce qu'on comprend bien que l'objectif, c'est de fédérer les énergies avec des gens qui ont envie de faire bouger les choses sur les thématiques du climat, oui, mais n'y en a-t-il pas davantage pour qui ce n'est pas une priorité? Alors, un seul exemple, Pierre, dans leurs revendications sociales, les Gilets jaunes ont relégué le sujet à l'arrière-plan. Par exemple.
Oui, je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet parce que c'est assez complexe, mais je pense que la prise de conscience existe et est de plus en plus visible. Alors, il ne faut évidemment pas faire preuve d'un optimisme béat. En tout cas, je ne partage pas totalement votre vision à propos des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'il est vrai qu'ils ont commencé à poser des revendications sociales, mais certains sont allés plus loin et ont fait le lien entre leurs revendications et celles sur l'état de la planète. La transition écologique passera par la justice sociale, disent certains. C'est ce que il ne faudrait surtout pas opposer fin du mois et fin du monde.
Alors, vous dites que vous n'êtes pas. Rappelons quand même que le mouvement des Gilets jaunes a été insufflé par la taxe en hausse sur les carburants, donc sur les énergies fossiles responsables en partie de la pollution. Alors, y a-t-il vraiment une solution?
Tout le monde connaît la pollution des énergies fossiles.
Justement, tout si on augmente.
Ouais, tout le monde connaît la solution. Ça a même été dit lors de la COP21 2015. Limiter de façon spectaculaire l'extraction d'énergie fossile. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Tout le contraire, on n'a jamais autant extrait. Total fait partie de ces multinationales qui montrent le chemin pour exploiter le plus possible dans le monde et pour satisfaire leurs intérêts et leurs actionnaires. L'État français est aussi dans cette optique productiviste. Il a reculé à cause des collectifs actifs dans notre pays pour exploiter le gaz de schiste et le gaz de couche. Mais il va faire venir du gaz de schiste des États-Unis. On marche sur la tête.
Alors, Pierrot, je crois comprendre que les collectifs pour le climat exigent des pouvoirs publics des mesures de transition pour repenser nos modèles énergétiques, urbains, industriels et agricoles, avec des politiques ambitieuses indispensables pour accompagner un changement sociétal profond dans le respect de tous. Or, Pierre, quand l'État prend des mesures, cela tourne rapidement quand même au tollé général. Alors, je le constatais lors d'une émission, pas facile d'être président, c'est ce qu'on se disait avec Jean-Louis. C'est vrai que les manifestants donnent-ils des solutions? Et d'ailleurs, y a-t-il des solutions miracles, Pierre?
Ouais, alors, avant d'envisager les solutions, il faudra peut-être se poser la première question, c'est-à-dire, nous a-t-on demandé notre avis? Alors, je pense que non. Pourquoi nous nous lançons dans ces actions qui nous permettront de montrer qu'on est totalement concerné par ces questions, qu'on a notre mot à dire, et on le fera savoir? Alors, ensemble, ça veut dire quoi? Ça veut dire se retrouver pour montrer notre détermination, se retrouver pour imaginer des solutions. Ces solutions ne seront pas faciles à imaginer, c'est clair. Elles devront partir de l'idée que ce n'est pas en consommant que l'on ira dans le bon sens. Il faudra s'habituer à la sobriété. Ça signifie qu'on va d'abord faire en sorte que tous les humains ne manquent de rien de ce qui est essentiel. On va se retrouver entre humains pour bâtir un monde respectueux de notre environnement, de notre vie et de la nature. Bref, respectueux du vivant. Vivant humain, vivant végétal, vivant animal. Vaste programme, c'est vrai. Ça se fera, ce sera peut-être un miracle, mais enfin, il faudra qu'on y arrive. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Une fiscalité carbone juste et efficace et redistributive. Des mesures sociales et écologiques facilitant le passage aux alternatives permettant de mieux vivre. Mettre fin à l'extraction des énergies fossiles, on l'a dit, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Développer une économie locale éolienne, solaire et non nucléaire. Multiplier les pratiques en agroforesterie écologique et bio. Nous en avons un exemple avec ce maraîcher bio à Loison-sous-Lens. Repenser le transport, donner toute sa place notamment au vélo, ce qui n'est pas le cas du tout avec la mise en place bientôt du bus BHNS autour de Lens et Béthune. Et la fin de l'impunité des multinationales lobbies ou groupes de pression climaticides.
Mais Pierre, oui, redonner sa place au vélo, c'est vrai que bon, mais enfin tout le monde ne peut pas faire du vélo. Bon, ça c'est une chose. Mais vous parliez de d'éoliennes. C'est vrai que j'ai eu lors de, enfin dans cette émission, quelqu'un qui était pourtant très écolo et qui ne nous a pas dit que du bien des éoliennes.
Ah ben, je suis bien conscient aussi. Hein. De ce côté-là, on pourra faire une émission là-dessus. Hein. Il n'y a pas de problème.
Tout à fait. Alors, ma dernière question, Pierre-Rose. Les rassemblements pour une cause aussi vitale, c'est bien, car l'union fait la force et le nombre prouve que. Mais ne devrions-nous pas, justement, à l'image du colibri de Pierre Rabhi, faire chacun notre part? Nous avons chacun quelque chose à faire, n'est-ce pas?
Ouais. Commençons par nous-mêmes, c'est certainement plus simple. Ça ne sera pas facile, comme le disait Jean-Louis, d'ailleurs. Il faut remettre les choses dans l'ordre, tout de même. Il faut rappeler que les pauvres émettent 40 fois moins de carbone que les très riches et payent plus de 4 fois plus de taxes carbone en pourcentage de leurs revenus. Donc il faudra demander tout de même plus aux riches qu'aux pauvres. C'est ce qu'on appelle la justice sociale. C'est un peu dans le sens du colibri de Pierre Rabhi. Alors, en second lieu, l'État devra monter l'exemple. Il faudra qu'il abandonne pas mal de projets inutiles. Puis en dernier sort, les multinationales ne devront pas être en reste. Seront-elles vertueuses? Pour l'instant, elles n'en prennent pas le chemin. D'ailleurs, les plus gros pollueurs français ne payent presque pas de taxes carbone.
Tout à fait.
Il est indispensable de passer vers une décroissance. La situation est grave. Rob Hopkins, celui qui est le maître au niveau de la transition, disait à sa façon, c'est normal d'avoir peur. Si vous n'avez pas peur, c'est que vous n'avez pas bien compris la situation. Donc tous les acteurs potentiels du changement devront être collectivement inventif. Il faudra trouver des solutions. C'est pour ça qu'on se bouge et on ne fait que commenter. Il faudra être nombreux dans les rassemblements des 15 et 16 mars.
Pierre-Rose, merci. Et on rappelle donc votre point de ralliement pour le secteur de Lens-Liévin. C'est ce samedi 16 mars.
Oui, 10h rond-point Bollard, et merci pour nous avoir accueillis encore une fois.
Donc 10h rond-point Bollard.
Voilà.
À Lens. Merci.
Allez,
Pierre. Merci Pierre.
Au revoir.
Au revoir.
C'est un peu comme attendre une étoile, comme attendre le Messie. C'est un peu comme tendre sa voile et attendre le cher guide. C'est un peu comme une longue prière qu'on ne fait que dans son lit. Un peu désespérant d'attendre son pays. C'est un peu comme attendre qu'une mère lave les planchers salis. C'est plutôt même un peu le contraire, ce sont les jeunes aujourd'hui qui secouent toute la vieille poussière, jettent les idées ternies. C'est un peu inquiétant d'attendre son pays. C'est un peu comme attendre au théâtre que le spectacle commence. On trépigne, on a hâte de voir les performances. Faut que le casting soit le bon pour que le peuple se lève de rebond. C'est un peu comme attendre un traîneau au-dessus des cheminées. C'est un peu comme attendre un cadeau, mais toujours être oublié. On ne croit plus à l'habit rouge et blanc, on veut plus se déguiser. C'est un présent tout bleu que l'on veut déballer. C'est un peu comme attendre au théâtre que le spectacle commence. On trépigne, on a hâte de voir les performances. Faut que le casting soit le bon, pour que le peuple se lève de rebond, se lève. Nos forêts, notre langue. Qu'est-ce qu'on ferait de nos cendres? On est là qu'on piétine un pays plein de promesses. Faut-il aller en Chine pour savoir nos richesses? On attend de tracer les confins d'un pays déjà formé, souligner le contour du jardin qui nous fleurit sous les pieds.
Eh bien, voilà, si vous avez envie, vous aussi, de faire partie de ces citoyens qui marcheront ensemble ce samedi 16 mars, renseignez-vous, car des rassemblements se feront dans beaucoup de villes, Lens, mais aussi Arras et Lille, par exemple. En tout cas, aujourd'hui, dans l'air du temps, grâce à Jean-Louis Ouattet, Bertrand Trinel et Pierre Rose, nous sommes restés dans le domaine environnemental. Voilà, chacun de vous peut apporter sa pierre à l'édifice.